Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Et si nous consommions autrement? À l'heure du réchauffement climatique et de la révolution écologique prônée jusque par le pape François, les consommateurs en France comme ailleurs commencent à adopter de nouveaux types de comportements. Achats groupés, vente ou location de ses biens, à d'autres particuliers, troc, échange gratuit. Aujourd'hui, un autre mode de consommation et par ricochet un autre mode de production est en train de voir le jour. Une autre manière de consommer, mais aussi d'envisager les échanges économiques, la manière de vivre en société et même la vie. Alors, pour cette émission Consommer autrement, c'est possible, je reçois ce matin Geoffroy Pleyers. Vous êtes auteur de La Consommation solidaire. Alors, vous êtes par téléphone, bonjour.
Bonjour.
Christophe Eberhardt, vous êtes ingénieur agronome, membre de Éthicable, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi par téléphone. Luc Dando, vous êtes pas par téléphone, vous êtes en chair et en os dans le studio, donc vous êtes ingénieur et auteur de Vers une éco-industrie locale, bonjour.
Bonjour.
Joseph Gonzalez, vous êtes coordinateur de l'association Toulouse en transition. Chantal Aubé, vous êtes ancienne chroniqueuse écologique à Radio Présence, bonjour.
Bonjour.
Et Cédric Auriol, vous êtes fondateur de Micronutrice,
bonjour. Bonjour.
Alors, il y a du monde en plateau, du coup, on va essayer d'être disciplinés. Au début de cette émission, je vous donne la parole à vous, Geoffroy Player surtout, et puis vous pourrez réagir les uns les autres. Quelques questions, je voulais essayer de voir avec vous quelle est la genèse ou comment tout a commencé, comment s'est développé tout ce qu'on appelle aujourd'hui cette économie alternative. Alors si j'ai bien compris, n'étant pas un spécialiste, ça recouvre beaucoup de réalités différentes en fait, hein, l'économie sociale et solidaire, économie collaborative, etc. Vous compléterez, vous corrigerez. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est de plus en plus présent chez les chrétiens. En tout cas, le pape François a tapé fort avec son encyclique Laudato Si, et il y a un mouvement de fond qui s'accélère chez les chrétiens. Mais on va dire, si on doit remonter au début, presque à l'an zéro de cette mini-révolution en marche, ou cette révolution en marche, il faut remonter à quand, Geoffroy Pleyers?
Écoutez, on peut toujours remonter plus loin, on peut remonter jusqu'au, par exemple, juste après la Révolution, en France, il y avait déjà des groupes très importants d'achats solidaires. On sait par exemple qu'au milieu du 19e siècle, il y avait plus de 20% de la population de la ville de Lille qui faisait partie de groupes d'achats communs. Et donc, on voit que c'est un phénomène ancien, mais je pense que pour ce qui est d'une espèce de renouveau de ce mouvement, davantage ancré sur la qualité de la consommation, l'écologie et la proximité, c'est vraiment à partir du début des années 2000 qu'on le voit en France et en Europe, à partir de modèles qui viennent enfin, du Japon, des États-Unis, mais aussi d'expériences locales un peu partout en France. Et je crois qu'il y a un lien assez fort dans tous les pays d'Europe avec l'altermondialisme, en fait, puisque là, il s'agit de penser, et non seulement penser un monde plus juste, mais aussi le mettre en pratique. Et donc avec cette idée qu'on ne peut pas finalement demander un monde plus juste en allant manifester, en lisant des livres intéressants sur la finance et d'autres choses, et puis en même temps continuer à consommer pour normalement, en reproduisant tout ce qu'on voit en achetant dans les centres commerciaux et en basant notre vie sur la consommation. Donc il y a cette idée qu'il faut absolument mettre en pratique ces valeurs avec une consommation plus locale. On a évidemment l'antécédent du commerce équitable. Mais là, c'était un commerce équitable qui venait de loin, avec une solidarité aussi marquée avec le Sud. Maintenant, il s'agit à la fois d'intégrer les valeurs de préoccupation pour soi-même, bien sûr, qui sont tout à fait légitimes au niveau de la santé, notamment quand on parle de l'alimentation, des préoccupations aussi pour l'espace local. Il s'agit de relocaliser l'économie, de redonner des emplois, de recréer des emplois, soutenir les agriculteurs locaux, mais aussi le commerce, avec une chose très importante qui est ce renouveau de la convivialité locale, ce vivre ensemble, donc tout cela est présent, donc c'est le soi, le local, mais aussi bien sûr le global, puisqu'on sait que si on parle par exemple de l'alimentation, elle est responsable d'une partie conséquente des gaz à effet de serre. Quand on parle uniquement de la viande, par exemple, la consommation de viande est responsable de 19% des gaz à effet de serre, et donc on a trouvé un levier assez fantastique pour vivre ensemble d'une autre manière, pour avoir un impact aussi, sans doute limité, mais un impact quand même sur des grands enjeux comme le changement climatique, la faim dans le monde, à partir notamment d'une transformation de notre manière de se nourrir.
Alors peut-être si on doit citer quelques chiffres maintenant qui montrent l'importance qu'est en train de recouvrir cette économie alternative. Alors les uns les autres, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous voulez ajouter des choses ou si les termes utilisés ne sont pas adéquats. Je lisais en préparant cette émission qu'aujourd'hui c'est près du 10% du PIB en France, ça serait plus de 2 millions de salariés, ça serait un emploi privé sur 8 en France. Est-ce que c'est une croissance exponentielle? Enfin la croissance en l'occurrence, j'ai cru comprendre qu'en tout cas l'économie sociale et solidaire a connu une croissance trois fois supérieure au reste de l'économie, on va dire, lors de ces 10 dernières années. Donc il y a un mouvement d'accélération, on peut dire, depuis les années 2000, et si on doit se projeter, je sais pas, à 10, 20, 30, 50 ans, à quoi pourrait ressembler peut-être cette économie? Est-ce qu'elle a vocation à rester marginale?
En fait, dans l'économie sociale et solidaire, il y a vraiment des projets très différents. Et quand on parle de PIB et d'emploi, on parle certainement d'une partie de cette économie sociale et solidaire avec des mutuelles, certaines banques et d'autres choses. Mais il y a aussi, à côté de cela, un autre champ qui fait aussi partie de l'économie sociale et solidaire, qui est en plein boom, mais qui est peu visible dans les statistiques, puisqu'il s'agit justement de la simplicité volontaire, de la décroissance, et donc il ne peut pas forcément se mesurer à son impact sur la croissance. Mais par contre, ça peut se mesurer au niveau de la qualité de vie des citoyens. Ça peut se mesurer aussi, pour certains secteurs, sur le soutien et parfois la création d'emplois. Ces emplois, notamment, on le voit dans l'agriculture locale, dans les AMAP, qui sont devenues des choses considérables, ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui rassemblent des dizaines de milliers de Français chaque semaine, qui viennent prendre un panier de légumes cultivés par un maraîcher qui n'habite pas trop loin. Et donc là, il y a une partie qui est sans doute visible et qui peut être mesurée en termes de PIB et d'emploi, mais il y a une autre partie qui me paraît plus essentielle et je pense qui est vraiment dans la ligne de Laudato Si, l'encyclique du pape François, ce qui est de dire une remise en cause en fait de la place de l'économie, la place de la consommation dans nos vies. Et là, je crois que c'est un facteur essentiel d'une bonne partie de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de toute une série de mondes de consommation, ou de consommation critique, ou de moindre consommation. Il ne s'agit pas seulement de consommer autrement, il s'agit de consommer moins et de critiquer la place centrale de la consommation dans la société d'aujourd'hui. Et donc à travers cela, il y a des indicateurs, bien sûr, qui restent importants pour une partie du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi une réalité qui se vit autrement et une autre conception du monde qui est à la fois incarnée et promue dans ces pratiques.
Alors Christophe Eberhardt, peut-être vous avez une réaction sur ce qui a été dit jusque-là, vous qui êtes un acteur clé, semble-t-il, de cette économie alternative, solidaire, je ne sais pas quel est le mot exactement qu'il faut utiliser, économique, sociale et solidaire en France, donc avec Éthicable, qu'on présentera peut-être un peu plus tardivement dans le détail, que vous pouvez présenter brièvement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette économie qui se développe en France?
Oui, l'économie sociale et solidaire, nous, on s'inscrit dans cette économie-là, puisqu'on est une entreprise coopérative, c'est-à-dire que l'entreprise appartient à tous ses salariés, avec une volonté au départ d'avoir créé un outil au service du commerce équitable, plus que simplement un outil commercial. Et c'est l'ensemble de ses salariés engagés dans le commerce équitable qui sont les propriétaires de cette entreprise. Donc on s'inscrit bien dans l'économie sociale et solidaire.
Peut-être, est-ce que vous pouvez présenter très rapidement Ethica pour ceux qui ne connaîtraient pas? Parce que je disais que c'est un acteur clé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Donc Ethicable est une entreprise coopérative basée dans Gers, à Florence. C'est là que se trouve notre siège, c'est là que se trouvent nos entrepôts. Nous importons des produits de différentes parties du monde, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, et nous achetons tous nos produits auprès d'organisations de petits producteurs, de coopératives et d'associations de producteurs, de café, de thé, de cacao, de fruits, des gens qui sont des petits paysans de 2-3 hectares, qui produisent des quantités réduites, mais dans une agriculture paysanne, une agriculture écologique, et qui sont regroupés dans des associations, dans des coopératives qui n'ont pas qu'une volonté commerciale, mais qui ont pour but de s'inscrire dans l'économie sociale, justement, et donc d'apporter, de contribuer au développement. Et ce sont des petits paysans qui prennent leur développement en main. Et donc nous avons une gamme de produits, d'une centaine de produits, des cafés chocolat, on les trouve dans tous les rayons, ce sont des produits bio également, donc bio et équitables. et nous sommes présents sur l'ensemble du pays dans les différents points de vente depuis maintenant 12 ans. Nous sommes un des acteurs du commerce équitable en France.
D'accord. Alors Geoffroy Pleyers, avant qu'on fasse une première pause musicale, je voulais faire un point d'actualité. Le 8 février dernier, le député socialiste Pascal Terrasse a remis à Manuel Valls un rapport sur l'économie collaborative. Alors là, on a parlé de l'économie sociale et solidaire, peut-être vous pouvez faire le distinguo, l'économie collaborative, expliquer la différence, et preuve qu'en tout cas c'est d'actualité, demandant en fait à ce que le gouvernement en fait soutienne cette économie, plutôt que peut-être de la regarder de travers. Alors évidemment, dans cette économie collaborative, il y a des acteurs comme Uber, on en a entendu parler beaucoup dans l'actualité, mais aussi Blablacar, Airbnb pour les locations d'appartements et de tourisme, etc. Autant de choses qui se développent.
Oui, là, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette économie collaborative. Il y a des choses qui relèvent vraiment d'une logique économique très classique où ce qui compte, c'est le profit. Et donc, par là, on met en place, grâce à Internet notamment, de nouvelles manières de mettre plus directement en lien le consommateur et celui qui produit un service, Uber, Airbnb, etc. Là, il ne s'agit pas du tout, à mon avis, d'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une économie classique dans laquelle l'objectif est d'en avoir toujours plus ou de fournir des revenus, parfois intéressants, à des personnes qui en ont besoin. Et donc, il y a une autre partie aussi, et on dit, sous le même label, en fait, il y a des choses très différentes, comme par exemple le fait qu'il y a des exemples concrets d'échanges, il y a des monnaies locales aussi qui permettent d'autres types d'échanges qui sont orientés vers peut-être beaucoup plus de liens sociaux, vers le fait que l'échange économique ne se réduit pas à un échange marchand, qu'il y a bien d'autres choses derrière. Et donc je pense que c'est assez dangereux, je suis assez préoccupé plutôt par le fait de voir qu'il y a tellement de choses aujourd'hui derrière cette idée d'économie collaborative et beaucoup de choses dans ce qui est plus visible en fait dans les médias, qui n'ont plus grand chose à voir avec le projet original, qui était de dire il faut une économie qui soit basée sur la collaboration plutôt que sur la compétition, il faut plutôt voir comment les citoyens peuvent s'entraider. Et on en est bien loin avec Uber, avec Airbnb et d'autres. Donc il y a toujours un risque quelque part que les concepts originaux soient un peu récupérés, mais sans les valeurs différentes. Donc justement l'idée d'une idée centrale dans l'économie sociale et solidaire, comme dans certaines formes d'économie collaborative, c'est justement de remettre en cause, de questionner cette idée d'une économie toute puissante dans laquelle les échanges entre êtres humains sont essentiellement liés à des calculs économiques. Donc c'est ça que voulait remettre en place aussi l'économie collaborative. Et là, je pense que, évidemment, la perspective du gouvernement, qui est davantage centrée sur une croissance du PIB, recherche des choses très différentes de nombreuses associations locales. Je pense en particulier au système d'échanges locaux, les SEL, autour de monnaie locale, et puis plein d'autres petites expériences, mais petites mais importantes, d'économie collaborative.
Alors, on va faire une première pause musicale, et puis après, on va essayer de faire un tour de table des acteurs qui sont présents autour de ce plateau et qui sont à l'image donc de ces différentes initiatives.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique. Un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets,
Y'a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit, plutôt que rêver, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore, pour les raisons que vous savez. À la montagne, y'a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson, je voulais juste voir si vous suiviez. La campagne, quand arrive le dimanche soir, à la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir, je m'en vais à cercle le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux, le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine, mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée? À la campagne, s'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.
Voilà, ce matin donc une émission Consommer Autrement, c'est possible. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que nous sommes, enfin avec, nous étions pardon, avec Geoffroy Players qui nous a quitté, donc qui est auteur de La Consommation solidaire aux éditions DDB. Je donnerai toutes les références à la fin de l'émission. Christophe Eberhardt par téléphone, ingénieur agronome et membre de Éthicable. Luc Dando, ingénieur, auteur de Vers une éco-industrie locale. Joseph Gonzalez, coordinateur de l'association Toulouse en transition. Chantal Aubé, ancienne chroniqueuse écologique à Radio Présence. Et Cédric Auriol, fondateur de Micronutris. Alors maintenant, on va faire un tour de table pour essayer de comprendre qui vous êtes, qui sont ces différents acteurs et ce que se cache derrière ces intitulés. On commence avec vous, Cédric Auriol, donc fondateur de Micronutris. Est-ce que vous pouvez nous présenter Micronutris, s'il vous plaît? Vous, c'est assez original, c'est oui. Un peu le scoop de la rentrée presque.
Alors, donc Micronutris, c'est la première ferme d'élevage en France d'insectes pour l'alimentation humaine. Et donc, pourquoi aujourd'hui parler d'insectes pour l'alimentation humaine? Alors, il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a un contexte alimentaire qui dit que d'ici à 2050, on va avoir besoin de produire deux fois plus de protéines et que les modes de consommation actuels et les ressources disponibles vont pas permettre de relever ce défi alimentaire. Et donc, aujourd'hui, c'est intéressant d'envisager des solutions.
Alors, juste, est-ce que vous pouvez expliquer juste ça? C'est-à-dire, ça veut dire quoi qu'on va avoir besoin de plus de protéines et pourquoi est-ce qu'on ne va pas réussir à faire face à cette demande?
Alors, on va avoir besoin de plus de protéines pour deux raisons. Premièrement, suite à la croissance démographique mondiale, on sait qu'on va être près de 10 milliards en 2050, et aussi du fait de l'évolution des mœurs de consommation dans les pays en voie de développement qui ont tendance à consommer une alimentation plus carnée. Et comme on l'évoquait en début d'émission, la production de viande va représenter jusqu'à 19% d'émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial, et donc il y a un vrai sujet environnemental quant à la production de viande. Et donc l'intérêt des insectes comestibles et pourquoi ça a du sens d'en parler aujourd'hui, c'est que la production d'insectes va rejeter 100 fois moins de gaz à effet de serre que la production de viande conventionnelle. Alors il y a une raison toute simple, c'est que les insectes...
On imagine bien, c'est sûr que la différence entre l'asticot et une vache, on voit à peu près quand même. C'est...
Alors voilà, mais je parlais en termes de masse globale.
D'accord.
Et donc la vraie raison, c'est que les insectes, ce sont des animaux qui sont à sang froid et donc ils ont besoin de beaucoup moins de ressources pour se développer parce qu'ils n'ont pas besoin de produire de chaleur. Et ce qui est aussi très intéressant dans les insectes comestibles, c'est qu'ils vont avoir une teneur exceptionnelle en protéines, en minéraux et en acides gras insaturés de type oméga 3. Donc c'est une solution crédible pour faire face à ces enjeux alimentaires.
Donc, quand est-ce qu'est née cette entreprise? Comment elle se porte? Et puis, je vous posais la question pendant la pause musicale. Est-ce que vous êtes dans un schéma économique classique? Et si oui, sinon, quelle nuance il faut apporter à ça?
Alors, donc, Micronutri, c'est une entreprise qui est née en 2011. Donc, c'est une activité agricole qui est vraiment innovante, dans laquelle on a mis en place un système de production mais qui est à ce jour unique au monde dans la production d'insectes pour l'alimentation humaine.
Production locale?
Alors, c'est produit localement aux portes de Toulouse. Avec nos insectes sont nourris avec une alimentation issue de l'agriculture biologique, aux normes agroalimentaires les plus strictes. Et donc nous, ce qu'on a observé depuis 2011, c'est qu'on a fait déguster nos produits dans de nombreux événements. J'ai pu faire déguster ces produits-là à plus de 500 000 personnes. Et on a vraiment senti une évolution dans la manière d'appréhender ces nouveaux aliments auprès de la population française. Parce que de plus en plus de gens sont concernés par l'impact environnemental de l'alimentation qu'ils vont ingérer. Donc on voit ça par les tendances locavores, le développement de l'agriculture biologique et aussi la recherche de sources alimentaires alternatives comme peuvent l'être les insectes comestibles ou d'autres sources de nutriments.
Et comment marche votre entreprise ?
Alors aujourd'hui on est encore une entreprise en termes de développement, on est une dizaine de personnes, on est une entreprise qui d'un point de vue économique n'est pas encore rentable, mais on souhaite quand même s'inscrire dans un modèle rentable, hein, parce que à mon sens c'est indispensable pour pouvoir pérenniser cette activité et les emplois qui y sont liés. Et on sent qu'on a de plus en plus d'attraction de la part du marché et on espère être rentable d'ici à 2 ans.
Quand je vous posais la question pendant la pause musicale, comment vous sentiez, enfin, on entendait bien Geoffroy Player se dire aujourd'hui il y a un peu tout et rien vers ce label d'économie alternative. Vous êtes plutôt tendance Uber, on va dire, ou plutôt tendance économie sociale et solidaire?
Alors, nous déjà, on n'est pas forcément rattaché à un label particulier. Après, on essaye d'avoir des bonnes pratiques en interne. Donc moi, j'avais la volonté de vraiment m'engager dans une entreprise qui allait pouvoir créer une activité industrielle et des emplois en France et qui allait pouvoir répondre à des enjeux de développement durable. Donc c'est vrai que l'équipe de départ et l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui est réunie autour de ces valeurs. Après, on n'a pas derrière nous un label économie sociale et solidaire et un engagement reconnu et marqué par des tiers, mais au quotidien, ce qu'on vit dans l'entreprise, on est une équipe qui est motivée et engagée pour essayer de faire bouger les lignes et proposer une alternative qui a du sens en termes de réponse aux enjeux alimentaires.
Je sens que Jean-Pierre Allot va vous inviter dans la matinale. En tout cas, on fera en sorte que ça soit le cas. Christophe Abrart, même si ça fait un peu catalogue, la parole est à vous. Alors, Etika, vous l'avez présenté tout à l'heure. Donc, peut-être pouvez-vous le refaire rapidement. Moi, en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que j'ai cru comprendre, donc, en préparant cette émission, que Etika était aujourd'hui un acteur clé. Vous avez même reçu, si je me trompe pas, il n'y a pas très longtemps, un prix. Vous avez été élu numéro 1 des marques positives. Alors vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, l'entreprise, pour vous, pour le coup, vous, enfin, elle marche bien. Je veux dire, les débuts sont derrière. J'avais noté que vous aviez 6 millions de produits commercialisés, un chiffre d'affaires de près de 15 millions d'euros et 61 salariés, dont 44 sociétaires, puisque vous êtes donc une coopérative. Alors dites-nous tout sur Etikable.
Eh bien, Etikable, donc, comme vous disiez, c'est une entreprise coopérative. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont propriétaires de l'entreprise. C'est une entreprise qui développe le commerce équitable avec les pays du Sud dans un premier temps, depuis maintenant 12 ans, et depuis plus récemment avec les producteurs d'ici, du Nord, puisque nous avons lancé une gamme de produits qui s'appelle Paysans d'ici et qui souhaite adapter le commerce équitable, l'idée du commerce équitable à l'agriculture locale.
Alors juste, pardon, pourquoi vous avez commencé avec l'étranger peut-être? Est-ce que vous pouvez nous dire?
Oh, c'est un peu notre histoire, c'est-à-dire que nous sommes au départ un groupe de gens qui avons travaillé dans la coopération, dans des ONG sur le terrain, et à notre retour en France, arrivé à la quarantaine, moi j'avais travaillé longtemps en Amérique latine, et j'avais perçu combien le commerce équitable avait des impacts positifs, finalement en achetant à des prix stables et rémunérateurs du café à des petits paysans. eh bien, ça crée des dynamiques de développement, des gens qui vivent mieux, qui prennent des initiatives, qui développent des services aux producteurs, de formation, d'accompagnement. Et on voit que vraiment c'est quelque chose de structurant dans un marché du café où principalement les gens sont touchés par des variations de prix, cette incertitude sur le prix. Et donc le commerce équitable était quelque chose de positif et on a voulu en rentrant en France créer une initiative autour de ça. Donc notre culture c'est celle des pays du Sud, de l'agriculture des pays du Sud.
D'accord. Alors je vous laisse continuer du coup sur Etikable.
Et donc Etikable aujourd'hui, comme vous le disiez, bon, c'est une entreprise qui a pris de l'importance au cours des années, puisque nous sommes un des acteurs du commerce équitable. Elle s'est développée très fortement dans un premier temps. Ensuite, il y a eu un peu une pause. C'est vrai que le commerce équitable a été peut-être moins... C'est beaucoup développé au début des années 2000, 2003, 2005. Et puis ensuite, au moment de la crise, la croissance, disons que les ventes étaient stables. Et puis depuis quelques temps... les ventes reprennent, puisque pas seulement chez Etikable, mais chez d'autres acteurs du commerce équitable aussi. Le commerce équitable, aujourd'hui, les consommateurs y reviennent. Bon, je crois qu'ils apprécient aussi les produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, le commerce équitable a été en mesure d'offrir des produits différents, hein, des cafés de terroir. Lorsqu'on voit un café du Pérou, de telle coopérative, finalement, comme dans les vins, on propose un produit de terroir qui a vraiment les saveurs des produits de cet endroit-là. Et donc le commerce équitable contribue aussi aujourd'hui dans un marché de masse où les produits très industrialisés souvent ont des goûts très standards, le commerce équitable contribue aussi à repositionner autrement ces produits tropicaux, les thés, les cafés, les chocolats, en mettant à l'honneur des terroirs et le travail de petits paysans.
Alors peut-être le commerce équitable, est-ce que vous pouvez nous en redonner peut-être la définition pour ceux qui n'en seraient pas familiers, même si on a pu la comprendre entre les lignes, et puis répondre aussi peut-être à quelques a priori, parce que pour ceux qui sont convaincus, j'ai envie de dire, l'affaire est dans le sac, mais d'aucuns disent d'abord c'est compliqué, ensuite on a du mal à trouver, après c'est plus cher, etc., etc. Enfin autant de choses auxquelles vous devez être très habitué comme commentaire. Est-ce que vous pouvez donc réagir et nous dire qu'est-ce que vous répondez depuis 10 ans à toutes ces personnes?
Alors le commerce équitable, c'est une autre forme de commercialisation, en mettant l'homme au centre de l'activité, qui repose principalement sur l'idée d'un prix rémunérateur au producteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le prix n'est pas donné par le marché, mais par le coût du travail. C'est-à-dire que c'est le coût de production. Le prix d'un commerce équitable, enfin, un prix d'un produit dans le commerce équitable, permet à un producteur de vivre dignement de son travail. Ça, c'est un peu la définition. C'est vrai que parfois, c'est difficile. Les gens imaginent qu'il y a une rétrocession, qu'on finance des petits producteurs. Le commerce équitable se situe non pas strictement dans une voie caritative, mais dans l'économie. C'est-à-dire que quelque part, les producteurs produisent des cacaos, des cafés, et l'idée c'est de leur payer un juste prix, avec des primes de développement qui permettent aux coopératives de mener des actions de développement, de la formation des hommes et des femmes, des projets sociaux, de réinvestir dans la communauté. Donc il y a une dimension de développement forte et aussi une dimension de rémunération correcte du travail des producteurs. Voilà, aujourd'hui le commerce équitable c'est quelque chose qui est un peu entré dans les mœurs, parce que c'est vrai que ça fait maintenant, je dirais, 2 décennies que le commerce équitable est passé dans presque tout le marché. On trouve des cafés, des thés, des chocolats de commerce équitable un peu partout. Et
pour autant, ça reste parfois, enfin, alors vous allez me corriger, mais on a l'impression que ça peut rester marginal et les consommateurs peuvent avoir les a priori que j'ai cités précédemment.
Ben, marginal, oui et non, parce que finalement, ça commence à peser sur certaines filières. Bon, on parlait du café par exemple, en France ça correspond à 5% de la consommation. Alors 5% ça paraît peu, effectivement c'est encore trop peu, mais en même temps ça représente des volumes très importants, et en termes d'impact sur les producteurs, ça touche un grand nombre de personnes et ça génère des dynamiques importantes.
Qu'est-ce que vous répondez donc aux gens qui ont des a priori sur ce type de, comment dire, de consommation, disant que c'est difficile à trouver ou trop cher? Qu'est-ce que vous leur dites?
Alors, difficile à trouver, c'est vrai que les produits sont pas présents toujours partout comme on le souhaiterait, mais de plus en plus, que ce soit dans les magasins spécialisés ou dans les supermarchés, on trouve notamment au rayon bio une offre intéressante de plus en plus. Un peu plus cher, C'est pas toujours le cas. C'est vrai que à qualité égale, souvent les produits commercialisables sont pas forcément beaucoup plus chers. Bon, quand ils le sont, il faut dire aussi que c'est quelque chose qui permet à des producteurs de développer leur coopérative, d'avoir un véritable impact en termes de développement. Et finalement, parfois le petit surplus vaut la peine.
Merci beaucoup. Alors, on continue le tour de table. N'hésitez pas à intervenir. Alors, vous, Luc Dando, votre truc, c'est l'éco-industrie locale. Alors, c'est pareil, je vais essayer d'expliquer et puis vous allez me dire si j'ai bien compris. Pardon si ça fait un peu catalogue, mais bon, c'est la meilleure manière pour le moment pour essayer de comprendre un petit peu les variantes de vos initiatives. Votre leitmotiv, c'est de faire en sorte de... Vous dites dans votre ouvrage qu'en gros, aujourd'hui, quand les industries ont tendance à disparaître en France, qu'on a tendance à importer des produits de l'étranger, etc., ou enfin autant de choses qu'on connaît, vous dites on peut produire dans le coin, avec des acteurs dans le coin, avec des besoins qui sont adaptés aux gens in situ et en fonction, on va dire, du biotope et du contexte. Alors dites-nous tout, l'éco-industrie, qu'est-ce que c'est, Kézako?
Oui, tout à fait. Donc d'abord, je voudrais juste situer notre modèle productif aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un modèle productif de masse qui est centralisé en général en pays bas coût. Et ceci amène est l'objet de multiples spéculations d'intermédiaires de négoce pour et finalement ce système-là ne sert pas les valeurs qui sont pour moi, qui devraient être la base, c'est-à-dire des valeurs humaines, des valeurs de respect de l'environnement, etc. Et donc ces produits aussi, ils sont en général, ça entraîne l'hyperconsommation de produits jetables, de produits obsolescents. Donc le projet un petit peu des éco-industries locales, c'est de dire, il y a certains produits que l'on pourrait fabriquer ici, alors effectivement pas au même prix qu'en Chine ou dans d'autres pays bas coûts. Mais finalement, si on limite tous ces intermédiaires de négoce qui ne profitent pas à l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie de services, des échanges entre les personnes de biens et de services.
Alors juste les intermédiaires de négoce, pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne sont pas familiers du monde économique, c'est, en l'occurrence, vous pouvez nous donner des exemples pour un produit type ?
Alors je peux vous donner un exemple global sans... Par exemple, des produits sont fabriqués en Chine, des petits produits, je pense, des choses ménagées, enfin des petits produits comme ça. Ils vont sortir à un prix, peut-être, bon, je prends un exemple d'un euro. Ces produits-là vont être produits en grande quantité. Des centrales d'achat vont les acheter en masse, vont les revendre à d'autres intermédiaires. Et il y a plein d'opérations financières qui sont faites sur les achats-reventes, et ces produits-là vont arriver en France à x10, x20, quelquefois plus de leur coût productif, de leur coût de production pour nous consommateurs. Donc il faut expliquer quand même cette notion de deux économies. Il existe aujourd'hui deux économies.
Alors, c'est ça, alors ça vous teniez à préciser.
Voilà. Dites-nous tout. Il y a donc l'économie, celle qu'on connaît depuis tout le temps, qui est l'économie réelle. Ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est de l'argent qui circule pour les échanges de biens et de services entre les personnes. On a besoin d'acheter une baguette de pain, d'acheter à manger, etc. Ça, c'est de l'économie réelle. Depuis longtemps, il y a le monde de la finance, les placements boursiers, etc., où c'est un modèle économique où les échanges se font non pas pour des échanges matériels de biens, mais pour faire de la spéculation et créer de l'argent avec de l'argent. Alors ce système économie virtuelle s'est beaucoup plus développé depuis la puissance du numérique, puisqu'aujourd'hui on peut faire, il y a des logiciels de trading qui font des placements achat-revente en bourse de l'ordre des millisecondes. Enfin, c'est assez étonnant les capacités qui se sont développées autour de ça. Et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, on dit que les environ 97% des masses monétaires échangées sur la planète se font dans l'économie virtuelle. Ce qui veut dire qu'il reste 3% pour la vie, pour les échanges vitaux entre les personnes. Alors forcément, ça pose de gros problèmes.
Et alors, pour l'éco-industrie locale, comment vous allez faire pour nous faire des jeans pas chers produits près de Toulouse?
Voilà.
Qui ne coûteront pas 400 euros le jean?
Voilà. Alors, donc déjà, y a plusieurs types de produits. Il y a les produits consommables. On parlait du jean, l'habillement, ce sont des produits consommables. Nous, aujourd'hui, on est plus à démarrer sur des produits qui ne sont pas consommables, donc c'est-à-dire qu'on peut réparer, contrairement à tous les produits qui sont faits aujourd'hui, dans la logique du jetable, nous on s'inscrit plutôt dans une logique du produit qu'on trouvait autrefois en France ou ailleurs, c'est-à-dire des produits qui sont solides, qu'on peut réparer et qu'on n'est pas obligé de jeter dès qu'il y a un truc qui casse. Quoi.
Alors par exemple,
là justement, on a le premier produit que l'on sort, qui est un petit peu un produit emblématique, c'est un parapluie. D'abord, il est fabriqué quasi uniquement avec des matériaux naturels. On peut pas être absolu, mais les baleines, par exemple, sont en bambou. C'est un tissu en fibre naturelle, coton ou lin. Le manche est en bois. Il y a aussi de l'inox et tout est monté avec de la visserie inox. Alors, on peut à la fois changer le tissu, par exemple, parce que c'est quand même la première pièce d'usure d'un parapluie. Et toutes les autres pièces, on peut les changer, juste la petite pièce qui est abîmée. Donc c'est complètement une autre démarche, un autre produit. Alors effectivement, ce parapluie, il est plus cher qu'un produit bas de gamme acheté sur le marché.
Plus cher, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que là, notre produit, il est à 100 euros, ce qui est un produit... Il y a d'autres parapluies fabriqués en France, il y a très peu d'entreprises qui le font. Et les parapluies fabriqués en France sont à plutôt 120 euros dans ces zones-là. Donc on est tout à fait dans les prix du marché des produits fabriqués en France. Par contre, c'est pas le même produit, parce que le nôtre est entièrement réparable.
Donc c'est un parapluie qu'on garde toute sa vie, c'est ça ?
C'est un parapluie qu'on transmet à nos enfants, oui. Parce qu'effectivement, et en plus, lui, il est biodégradable, il est fait en matériaux naturels. Alors ce qui est important aussi d'expliquer, c'est que dans ces modèles d'éco-industrie locale, justement, on va favoriser l'économie réelle sur le territoire. Alors ça, c'est assez important. On montre justement, parce que sur le site internet, donc www.eco-industrie-local, on voit ce parapluie et il y a des petits camemberts qui montrent les parts qui correspondent aux fabrications en interne par les co-industries locales, les parts de retour sur investissement, enfin des investissements qu'on fait pour fabriquer les machines de production. Et on montre par exemple que 67% du prix du parapluie reste dans l'économie réelle du territoire. Ce qui est à peu près 3 fois plus qu'un modèle classique d'entreprise qui va acheter des machines de production au Japon, à l'étranger, qui va avoir des financements bancaires, donc ce sont des intérêts pour l'achat des machines qui vont partir dans les circuits de la finance et donc dans cette économie réelle. Et donc l'idée, c'est de se réapproprier un maximum de maillons de la chaîne productive pour le faire en local. Voilà, donc c'est j'ai un petit peu fait le...
On fait une deuxième pause et puis après on essaie de voir, enfin on va parler de Toulouse en transition et puis essayer de voir un peu quelles sont les motivations. Alors on les a vues, hein. Motivation profonde derrière tout ça, et à quoi peut ressembler dans ces cas-là l'économie et la société française demain ou à horizon 2050.
Elle se lève juste avant les poules, avant que le coq ne déboule, pour donner à manger aux bêtes, avant même de faire sa toilette. Elle va réveiller le gamin, va chercher le lait et le pain. Bisous l'autocar, le collège et les courses pour la ferme, auberge. Le jour se lève sur la ville, comblé du concert de la veille. Je dors d'un sommeil tranquille, la femme de ménage me réveille. Au croisement de nos existences, quelque part sur les terres de France. Après la traite, il est allé mener le bétail dans le pré, les pensées perdues dans les terres d'un prochain voyage au Niger. Pierrot revient de l'abattoir, ils vont réparer l'abreuvoir. Ils parlent de brasser leur bière en coupant du bois pour l'hiver. Le jour s'étend sur la ville, je quitte l'hôtel pour la gare. Un SMS au bout du fil, baiser volé sur le départ. Au croisement de nos existences, quelque part sur les terres de France. Dans les
cerf, le chien se balade, tandis qu'Anne plante ses salades. La porte a été arrachée par l'orage de la nuit passée. Florence prépare les paniers de légumes qu'elle doit livrer. Après, il faudra faire les comptes, voir à la conf ce qui se raconte. J'arrive dans une autre ville, je file à la radio du coin, une interview un peu débile, et je rejoins les musiciens au croisement de nos existences, quelque part sur les terres de France. Le soir, le môme essaie de voir Réu de l'assaut, pour savoir quel film il programmerait bien au ciné-club les mois prochains. Puis dans les voitures, ils s'empilent, toute la bande se rend en ville. Ils arrivent à temps pour me voir, j'arrive sur scène. Bonsoir.
Radio Présence à Gourdon, 104.8. Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission Consommer autrement, c'est possible. Alors, vous l'aurez compris, c'est pas seulement consommer, c'est aussi produire, évidemment, derrière. Et nous sommes donc avec Christophe Eberhardt, ingénieur et membre de Éthicable, Luc Dando, ingénieur, auteur de Vers une éco-industrie locale, Joseph Gonzalez, à qui on va donner la parole juste après, coordinateur de l'association Toulouse en transition, Chantal Aubé, ancienne chroniqueuse écologique de Radio Présence, et Cédric Auriol, fondateur de Micro Nutrice. Alors, je vous donne la parole, Chantal Aubé. Vous vouliez réagir juste à ce qui a été dit précédemment, entre autres à ce parapluie qui peut paraître cher pour certaines personnes.
Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, finalement, c'est ce qu'on a entendu dans la bouche de Christophe Eberhardt d'Éthicable, dans la bouche de Luc Dando aussi, c'est que, la plupart d'entre nous constatons que ce monde ne va pas bien, qu'il y a des écarts qui se creusent, etc. Et nous sommes des acteurs et des consommateurs, comme on dit aussi. Et une notion qui est importante, à mon avis, c'est celle du juste prix. Est-ce que on est content quand on achète quelque chose pas cher, mais qui va se détériorer, qui va durer 3 mois? Moi, je me souviens d'un parapluie pas cher. Le premier coup de vent, il était à l'envers. Il y avait une tempête et c'était les poubelles étaient remplies de parapluies jetables, gaspillés. Ou alors, on achète quelque chose qui a du sens. Moi, pour moi, c'est très important. Et donc, on accepte de rémunérer d'abord les produits, les fabricants, les essentiellement, sans détériorer l'environnement, parce que ça va être fait avec des normes, sans faire travailler des enfants, on se souvient tous du Rajaplana au Bangladesh, où les gens étaient entassés pour fabriquer dans des conditions épouvantables, avec des enfants, avec des produits partout, enfin... Est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce qu'on se dit, ben non, moi je choisis de consommer moins, de consommer mieux, de consommer juste, de mettre le prix, de réduire mes besoins, de payer le juste prix. Et pour moi, ça procure du bonheur, parce qu'on se dit, ou je me dis, ou on peut se dire, ben voilà, mon acte d'achat a du sens et je contribue à un monde meilleur.
Alors, il n'y a pas que Chantal Aubé qui dit ça, hein, c'est ce que dit aussi le pape François, enfin les papes, ce qu'on dit les papes, et le pape François dans l'encyclique Laudato aussi, on y reviendra à la fin de cette émission. Alors, dites-nous maintenant, présentez-nous, Joseph Gonzalez, Toulouse en transition. Alors, je vais vous introduire, il y a, semble-t-il, depuis 2005, un mouvement qui se développe, c'est donc des villes en transition, voilà, et Toulouse en fait partie, et alors, ça serait parti d'Irlande, si j'ai bien compris, autour d'un certain Rob Hopkins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi des villes en transition? Expliquez-nous, faites-nous la version pour les nuls.
Alors le mouvement est parti de la philosophie de la permaculture, qui sous-tend tout le mouvement des villes en transition.
Alors la permaculture, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
La permaculture est née dans les années 70, dans un moment où on s'est aperçu que nos modes de vie n'étaient pas soutenables. Rachel Carson, en 1965, avait montré que l'utilisation de pesticides provoqué tout un tas de variations génétiques sur les animaux. Donc on avait déjà la vision, des gaz à effet de serre, que notre monde n'était pas soutenable, dans une société non permanente. Et des chercheurs australiens ont dit, la vie a 3,6 milliards d'années, nous en 200 ans, on est en train de mettre en péril la majorité des espèces vivantes, dont l'homme. Quelle leçon on peut prendre de la nature ? C'est quelle leçon de permanence ? Et à partir de ces observations, ils ont sorti...
Un type de production agricole donc, qui s'appelle la permaculture.
Un type de production agricole...
Je fais vite parce que sinon on n'aura pas le temps de parler tous en transition.
Mais ce qui est fondamental, c'est que c'est une philosophie, donc ça repose la base sur trois principes éthiques. Et ensuite, des principes de conception dans l'agriculture. Les principes éthiques, c'est prendre soin de la terre dans toute son acception, avec les êtres humains, la biodiversité. Deuxième principe éthique, prendre soin des hommes, qui est un corollaire du premier. Et si on veut satisfaire les deux premiers principes, il faut répartir les richesses équitablement. Voilà la base de la permaculture.
Alors, Toulouse en transition maintenant. Qu'est-ce que c'est une ville en transition ? Qu'est-ce que vous essayez de faire à Toulouse ?
Alors, à partir
qui vous êtes, combien vous êtes ?
À partir de cette philosophie, il y a des objectifs qui sont la résilience locale du territoire. Comment faire des territoires qui peuvent résister à des chocs, puisqu'on sait qu'on a des frontières actuellement, le changement climatique, la disponibilité en eau potable, l'azote, le phosphore, enfin on peut identifier 9 frontières. Donc l'analyse de la permaculture a permis d'aboutir à des organisations locales où des ensembles de citoyens se mettent ensemble pour voir comment affronter tous ces enjeux avec un des principes encore de conception de permaculture, c'est non seulement affronter les enjeux, mais vivre mieux en affrontant ces chocs. Donc il y a une vision optimiste de l'avenir.
Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement à Toulouse, ça veut dire quoi ? Je suis citoyen, je veux rejoindre Toulouse en transition. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez en fait ?
Aujourd'hui, on a un groupe moteur pour produire de l'énergie renouvelable locale, du photovoltaïque. On travaille avec Enercoop et différents acteurs. C'est un projet, on est à la phase émergence. On a des membres de Toulouse en transition qui ont lancé des quartiers en transition. Pourquoi ? Parce que le mouvement est né dans une ville de 8000 habitants et transposé sur Toulouse, c'est très difficile. Et à ce moment-là, on a préféré décliner par quartier. Donc il y a Bordeaux-Rouge en transition, Les Chalets en transition. Leur première action, par exemple, a été de créer un café bricole. Donc ça peut paraître anodin, mais si on analyse le mécanisme, il s'agit de sortir de cercles vicieux dont parlait par exemple Luc, où on va produire des produits à très bas coût, mais avec des retombées énormes que tout le monde doit payer, en particulier les plus pauvres. L'encyclique du pape fait le parallèle entre tous les changements climatiques, tous les enjeux et la pauvreté. Donc c'est un cercle vicieux. Par exemple, je prends un café bricole, les personnes vont amener un aspirateur à réparer. Donc il y aura des gens qui se regroupent, donc lien social. On va réduire les déchets, puisqu'on va réparer l'aspirateur. Et on va économiser les matières premières, puisque au lieu d'acheter un aspirateur neuf, on repartira avec le nouveau. Donc on voit à travers un tout petit exemple comment on peut inverser des cercles vicieux en cercles vertueux. Voilà un peu le principe. Et je voulais mentionner aussi qu'on a une vision de l'individu due au primat de l'économie, j'allais dire de la dictature de l'économie, qui nous fait croire ou qui veut nous persuader qu'on est d'abord, en tant qu'individu, des consommateurs. Or, quand on parle, si on écoute la radio, j'allais dire les médias normaux, on va parler X fois de consommateurs. Très peu de citoyens, très peu... Donc, il s'agit aussi de renverser la vapeur. Et de ne plus être persuadé qu'on est d'abord des consommateurs, on est des acteurs créateurs. Et dans ces acteurs créateurs, dans cette création-action, vont faire des actes de consommation, des actes de production, des actes de liens sociaux, mais on n'est pas dans un moule. On tend à nous persuader avec le neuromarketing. Il y a énormément d'argent qui est consacré à nous persuader qu'on est des consommateurs. Et le mouvement des transitions, nous sommes d'abord des acteurs, ou nous devons être d'abord des acteurs par des actions locales. J'ai donné café bricole, ça peut être des jardins partagés.
Alors vous en citez plein, hein, si on va sur Toulouse en transition, il y a les jardins collectifs, les Colibri, la Sol Violette, on n'a pas le temps d'en parler, donc cette monnaie locale, etc., etc. Il y a même une carte des villes en transition qu'on peut trouver sur Internet. Alors peut-être.
Tout à fait, oui.
Chantal Aubé, peut-être pour finir, on l'a cité plusieurs fois, l'encyclique Laudato aussi, donc du pape François, qui a été donc publié en juin 2015. Qui a eu un écho très important. Il y a même eu des articles dans le monde diplomatique. On a reçu sur ce plateau des gens qui, pour la première fois, avaient lu quelque chose du pape, parce que c'était dans le monde diplomatique. Voilà, le pape, il va fort, évidemment. Il décrit la situation. Il dit que ce qu'il appelle notre maison commune, en fait, est dans un état déplorable. Et il n'est pas, évidemment, c'est pas le premier à le dire. Dans une deuxième partie, il essaie de voir un petit peu quel était le plan de Dieu sur cette création. Et puis après, il invite à une révolution. Alors, tout ce qui a été dit, une révolution de vision de l'homme, peut-être, d'une certaine manière, et du modèle de production, de consommation et de vie ensemble. Alors lui, il critique ce qu'il appelle le paradigme technocratique, et il invite les hommes à devenir non pas les seigneurs de l'univers, mais des administrateurs responsables. Alors peut-être pour finir, dites-nous un mot de l'injonction du pape François. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette encyclique ?
C'est difficile en une minute de dire, mais...
Deux minutes, vous avez.
Deux minutes. Bon, mais c'est vrai qu'il fait l'état des lieux et il met le doigt sur les causes et les conséquences et il nous dit, vous n'avez pas le choix, c'est pas optionnel. Enfin, il a des mots comme ça dans le courant de son encyclique en disant, ce changement que l'on est appelé à faire, simplement parce que c'est pas vivable, parce que c'est trop inégal entre les uns et les autres, ces changements, on peut les faire, on doit les faire, c'est pas optionnel, il dit. Hein.
Voilà.
C'est très fort.
Bon, on refera une émission sur Laudato aussi. Enfin, on a déjà fait beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de monde ce matin en plateau. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter tout ce que vous faites pour cette émission. Donc, consommer autrement, c'est possible. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.